La conférence donnée par Éric Trélut, professeur à la SOC, à la BRED et doctorant à l'Institut catholique de Toulouse, concerne cette formule de Charles de Coninck, « Tout réel est étoffe d'esprit ». Il y étudie en particulier la place des mathématiques dans la philosophie thomiste et la voie du symbole chez Charles de Coninck.
Quand j'ai, au début, je me suis dit, mais la connaissance de l'être, la question me semblait finalement dire deux fois la même chose, puisque de quoi la connaissance peut-elle être autre? Je me rappelais de la fameuse phrase du fragment de Parménide, je crois que c'est le fragment 8, 34, 6, là, penser et ce pourquoi la pensée est sont la même chose. Donc la connaissance ne peut être que de l'être. Au départ, c'était ça qui a été mon point de qui a été l'accroche, mais relu à la lumière de Charles de Coninck, qui dans son commentaire sur la thèse sur ta thèse sur Eddington, finalement rejoint cette phrase qui est lourdement chargée d'un point de vue historique, à savoir que tout ce qui est étoffe d'esprit. Donc l'expression en anglais c'est mind stuff, expression qui est lourdement chargée puisque on la retrouve chez un mathématicien Clifford qui est, j'allais dire, au cœur de ce qu'on peut appeler de ce qui a été suggéré tout à l'heure d'ailleurs par une des personnes qui était sur Zoom, à savoir le panenthéisme, l'idée au fond qu'il y a une certaine harmonie entre l'être et la pensée. Cela va tellement loin que j'ai un texte, je vais vous donner tout de suite d'ailleurs, je pense qu'il est là, alors il n'est pas dans le même ordre, mais je pense qu'il est là, voilà, de Charles de Coninck, qui résume ceci, alors c'est à partir de son cours sur Eddington, publié dans les années 36, à Laval, où il fait dire que saint Thomas est au fond un idéaliste. Mais très particulier, un idéaliste objectif, et que cet idéalisme objectif de saint Thomas s'accompagne aussi d'un réalisme immédiat critique. Et de fait, dit Charles de Coninck, saint Thomas étant insaisissable, en tout cas, on ne peut pas le mettre dans des cases d'un idéalisme pur, d'un réaliste pur, il dit, je vous ai mis les deux expressions que l'on trouve dans différents cours, alors, sur-philosophie ou super-philosophie. C'est-à-dire qu'il dit que le thomisme est une sur-philosophie ou que le thomisme est une super-philosophie. Je vous lis, donc je vous ai mis une référence, c'est dans les archives que l'on trouve sur le site Scribe donc de Laval, des œuvres de Charles de Coninck. Alors, un texte, voilà ce qu'il dit, et en commentant l'expression d'Eddington, tout réel est étoffe d'esprit. Voilà ce qu'il dit. On a prétendu que c'était là du subjectivisme. Tous les scolastiques, sauf le père Rousselot, ont condamné Eddington. Alors, il renvoie à l'intellectualisme de saint Thomas. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, fond, il y a trois types d'idéalistes. Il y a l'idéalisme objectif, et là, il renvoie à Berkeley. Il n'y a pas de différence entre la pensée et le réel. Les choses sont les idées. Il y a l'idéalisme subjectiviste de Fichte, ou tout ce qui est monisme. Et puis, il a ce qu'il appelle l'idéalisme objectif réaliste. Et là, il dit saint Thomas. Et il précise, tout réel est connaissable, intelligible et transcendantalement. Et qu'au fond, tout réel est par définition connaissable. Ça renvoie au transcendantal, vrai en particulier. Et il oppose à l'idéalisme le réalisme. Et là encore, il distingue parmi le réalisme, deux types de réalisme. Un réalisme matérialiste, brutal. Alors, ici, ce sont tous les physiologues qui identifient matière et pensée. Il y a des réalistes ontologiques immédiats, naïfs. Alors, par exemple, qui n'ont aucun sens critique, notamment vis-à-vis de la sensation. Et puis, il a ce qu'il appelle le réalisme ontologique immédiat, mais critique. Et là, il dit encore, saint Thomas et Aristote, défiance critique à l'égard des données du sens commun. Voilà. Et on retrouve d'autres textes qui font écho à cette distinction. Un peu plus loin d'ailleurs, il dit ceci, pour lui, il y a deux types d'intelligence humaine, soit deux tendances dans l'intelligence humaine. Il y a la tendance foncièrement subjectiviste et il y a la tendance foncièrement objectiviste. Et dans la tendance foncièrement objectiviste, il y a cette tendance qui se traduit par le fait que l'intelligence se laisse mesurer par le réel. C'est-à-dire que le réel est plus grand que l'intelligence. Et là, il renvoie à Aristote, Saint Thomas et Eddington. Au fond, un des enjeux de ce travail, c'est de vous montrer à travers la voie du symbole qu'il y a quelque chose de profondément vrai dans ce qu'on peut appeler l'idéalisme. Et qu'il ne faudrait pas, au fond, même si là, c'est semble-t-il opposé, distinguer radicalement l'idéalisme et ce qu'on peut appeler le réalisme. Alors, je vais revenir à... et ainsi, je n'ai pas pu poser de questions tout à l'heure à Marc, et d'une certaine façon, je vais le provoquer maintenant. Je vais vous renvoyer à un texte de saint Thomas d'Aquin, donc dans les questions disputées, le De Anima, l'article 2, la réponse 5. Alors, la question, c'est, au départ, l'objection, c'est comment l'homme pourrait-il connaître les universels vu que tout ce qui est reçu est reçu selon le mode de celui qui le reçoit, et l'intelligence étant individuée, ce qu'elle reçoit sera d'une certaine façon aussi individuée. Donc, on ne peut pas connaître non plus par l'intelligence d'une façon universelle. Et saint Thomas, dans sa réponse, dit qu'il faut distinguer l'universel, ce par quoi nous intelligeons, de l'universel en tant que ce que l'on peut intelliger. Avant de donner cette distinction entre le quo et le id quod, il dit une chose assez étrange que je voudrais vous soumettre et qui va être un peu le point de départ de la réflexion. C'est que de quoi portent les sciences, sur quoi portent les sciences? Il dit très clairement que les sciences portent sur des universels. Universalia, de quibus sensionem. Certes, ces universels sont connus par ce qu'il appelle des fameuses species intelligibles, lesquels ne sont pas ceux qui est connu, mais ce par quoi justement on connaît les universels. Et il ajoute, concernant ces universels, que ces universels sont connus par seulement deux sciences, la physique et la métaphysique. Remarque assez étrange, sachant que saint Thomas, à la suite d'Aristote, distingue trois sciences spéculatives, à savoir la physique, la métaphysique et, bien évidemment, la mathématique. La réflexion, le point numéro 2, précise que ces universels, ces espèces intelligibles, ce par quoi sont connus les universels, peuvent être connus par un acte de réflexion. Lorsque l'intelligence réfléchit sur son propre acte, et là, nous avons ce qu'on appelle les intentions secondes en logique. Autrement dit, nous avons là, typiquement, ce qu'on peut appeler la logique comme science rationnelle. Donc, on voit très bien que dans cette remarque de saint Thomas, on a les deux grandes sciences spéculatives, physique et métaphysique, la science qui est la logique qui a pour objet les intentions secondes, l'intelligence qui réfléchit sur son propre acte lorsqu'elle connaît, les choses qui sont connues par deux sciences, à savoir la physique et la métaphysique. Étrangement, les mathématiques sont absentes du texte de saint Thomas. Je précise de quoi parle-t-on quand on parle d'universel. Alors là, je me suis appuyé sur différents textes de la physique, du commentaire des physiques de saint Thomas, donc au texte d'Aristote. Il dit très clairement dans le livre 1, qui est au fond le grand proémium de la physique, que les universels sont d'abord des choses intelligibles en actes. Petite remarque par rapport ici à Marc, je sais que pour saint Thomas, la couleur n'existe pas en acte dans la réalité. Parce que pour qu'il y ait de la couleur, il faut encore qu'elle soit perçue. Autrement dit, elle n'est en acte que si elle est perçue par une puissance qui est ici la puissance visuelle. Ce qui montre bien l'intimité d'ailleurs entre la réalité et les puissances de connaissance. Et que parler d'une réalité qui existerait, pour reprendre une expression qu'on retrouve chez Quentin Meillassou, dans une réalité qui existerait sans nous, et si le réalisme, ça consisterait à parler d'un monde qui existerait sans nous, ce réalisme-là n'est pas celui de saint Thomas d'Aquin. Donc, les universels, ce sont les intelligibles en acte. Et il précise que ces universels sont confus, qu'ils contiennent en eux toutes les espèces particulières, mais potentiellement. D'accord ? Et ces universels sont très clairement identifiés dans les huit livres de la fameuse physique d'Aristote, que saint Thomas appelle dans le huitième livre les universels de la nature. Matière, forme, d'ailleurs saint Thomas dit bien que la matière et la forme, en tant que principe percé du mouvement, dans les livres de la physique, sont des éléments universels de tous les êtres en mouvement. D'accord ? Et il est bien précisé que ce sont ces universels-là qui sont les premiers connus, et que selon ce qu'il appelle dans son commentaire du livre 1, première leçon, l'ordre de détermination, l'enjeu est de, ce que Marc, tu as dit, de contracter cet universel, de le déterminer en allant du commun au propre ou en allant du confus au distinct. Et il appelle et il dit très clairement que ce passage du confus au distinct est typiquement ce qu'on peut appeler un processus rationnel. Bien. Donc là, je vous l'ai donné, c'est dans le Proïnum de Decello. Il dit bien que autre est de considérer les choses d'un point de vue universel et autre est la considération de cette même chose en tant qu'on les applique à la matière. Et par exemple, le ciel, on peut parler du ciel ou de l'univers en tant qu'univers en général. Et ensuite, on va s'intéresser à cet univers en particulier, c'est-à-dire celui dans lequel nous vivons. Il dit que c'est une application de la forme à la matière. Il est très important de bien noter que ce processus rationnel s'oppose à un autre processus dont celui vous avez parlé, frère, lorsqu'il dit, et là je vous renvoie au De Veritate, notamment sur la connaissance que Dieu a des choses, parce que Dieu est le artifex, c'est-à-dire la connaissance de Dieu est une connaissance qui est semblable à l'art. L'artisan, lui, en tant qu'il est créateur, est non seulement par son art celui qui produit une forme, mais il est aussi celui qui produit la matière. Et parce qu'il produit à la fois la forme et la matière, il connaît et la forme et la matière. Et saint Thomas d'expliquer que si nous connaissons les choses dans l'universel, c'est que justement, nous ne pouvons pas connaître autrement qu'en faisant abstraction de la matière, mais la forme dégagée de la matière ne peut être qu'une forme universelle. Donc cette universalité-là, elle est liée à notre façon de connaître, parce que nous sommes, comment dirais-je, des êtres rationnels, et que les êtres rationnels, leur point de départ pour les êtres rationnels de la connaissance est le monde sensible, et qu'il faut tirer l'universel, en tout cas l'intelligible, du singulier matériel qui, en tant que tel, n'est pas pour nous. Pourquoi ? Parce que nous ne l'avons pas fabriqué, en fait. Donc ça, c'est une remarque importante. Alors, où est la mathématique ? Très rapidement, il y a dans saint Thomas des textes qui montrent que la mathématique pourrait être finalement parmi la physique. Vous voyez ? Ergo mathematica non abstrahi totalitaire a materia et motu. Au fond, il n'y a pas de réelle séparation entre les êtres mathématiques et les êtres matériels et en mouvement. D'accord ? Ce qui a fait même, alors, malgré tout, n'empêche que les êtres mathématiques ne sont pas comme les êtres physiques ou matériels. Vous avez cette expression de Maritain, ce seraient des êtres qu'il appelle préterme réel, c'est-à-dire dans une sorte de réalité à côté de la réalité physique, mais pas une réalité au sens strict. Pour autant, car la réalité, au sens strict, elle est ou abordée d'un point de vue physique ou d'un point de vue métaphysique. On peut aussi trouver d'autres textes que vous pouvez voir ici. En tout cas, il y a un problème. Si les objets mathématiques ont des propriétés différentes des êtres de la nature, et c'est très clair, parce que pensez simplement à un point ou à une tangente, s'ils en diffèrent même dans leur définition, sans matière, sensibles, comment peut-on dire qu'ils existent dans le monde réel ou qu'ils en sont simplement abstraits? Sous-entendu, finalement, est-ce qu'il ne faut pas, pour concevoir les êtres mathématiques, y ajouter une activité particulière de l'esprit? Et on trouve chez saint Thomas des textes qui, au contraire, tendent à montrer que, pour saint Thomas, les êtres mathématiques sont des êtres construits. Alors, c'est dans les sentences de question 1, article 3. Alors, c'est dans un fameux texte qui a été commenté par un thomiste qui est Maurer dans un article de 93, le thomisme et saint Thomas d'Aquin dans Fondation des mathématiques, dans Review of Mathematics, qui parle d'une question disputée qui a été écrite après les sentences, que de 10 ans après, mais qui a été incluse dans les sentences, parce que pour saint Thomas, lorsqu'il réfléchit sur les attributs de Dieu et la pluralité des attributs de Dieu, ce qui fait aussi écho, comment concevoir l'unité de Dieu et en même temps la pluralité des attributs, il dit finalement que pour bien comprendre cette pluralité et cette unité, il faut comprendre ce que fait la raison dans sa façon de dire les choses et de nommer les choses. Et il distingue 3 façons de nommer, en tout cas de signifier par un nom les choses. Soit le nom au sens strict, qui renvoie à une réalité qu'il appelle complète et qui existe à l'extérieur de l'âme. C'est la première idée. Le terme de cheval renvoie à une réalité extérieure à l'âme qu'est le cheval. Soit, au contraire, les êtres qui n'existent en aucun cas à l'extérieur de l'esprit, mais que la raison construit à partir d'elle-même, comme des chimères, des êtres de ce type-là. Et il ajoute ensuite, il y a des entités un peu intermédiaires qui sont faites par la raison, mais qui ont un fondement dans la réalité. Alors, il renvoie ici aux intentions secondes, genre, espèce, les accidents propres, etc. Et il renvoie aussi aux entités mathématiques, voyez. Donc là, il parle des intentions donc, du genre et de l'espèce, donc de la logique, et des mathématiques. Et là, vous avez un texte qui semble montrer que, pour saint Thomas d'Aquin, il y a quelque chose qui rapproche les mathématiques à la logique, puisque finalement, dans les deux cas, on ne parle pas de ce qui existe, mais on parle de quelque chose que la raison fait, mais à partir, plus ou moins, alors, de façon éloignée, de la réalité. Mais le fondement proche ou prochain des réalités mathématiques, c'est l'acte même de l'esprit. Et d'ailleurs, dans le même texte de saint Thomas, il emploie le mot que la raison va compléter, voyez, ou que des entités que la raison, j'allais dire, constitue à l'état d'achèvement par sa propre opération. Alors je passe parce que ça, je vais maintenant un peu expliquer ce que c'est que la loi du symbole. Donc il faudrait distinguer le symbole du nom et du nom infini. Donc je vais passer un peu plus vite. Et je voudrais, il me reste combien de temps? 10 minutes. Voilà. Vous renvoyez à 7 minutes à un article qui a été publié par un spécialiste de saint Thomas d'Aquin, tchèque, Zoboda, David, qui a écrit, qui a beaucoup réfléchi sur le rapport entre l'un et le multiple d'un point de vue numérologique, notamment, donc plutôt, notamment du point de vue des mathématiques. Il y a un article qui a été publié en 2020, donc Thomas Aquinas and some Thomists on the Nature of Mathematics. Qui fait un peu la synthèse de ce que je vous ai dit et argumente bien sûr en faveur de ce qu'on peut appeler cette idée que les mathématiques sont des êtres construits par la raison. Et je voudrais éclairer ce passage donc de saint Thomas des sentences avec Charles de Coninck, avec l'apport de Charles de Coninck. Charles de Coninck, dans un magnifique article publié en 45, La dialectique des limites comme critique de la raison, dit la chose suivante. Pour vous résumer l'idée, c'est que la raison, c'est, et là je fais écho à ce qu'a dit Marc tout à l'heure, une intelligence dégradée, s'il fallait l'exprimer ainsi. C'est-à-dire que dans l'échelle des êtres intelligents, Dieu est au sommet et dans une forme de dégradation qui renvoie à un processus dont saint Thomas parle dans le De Optimibus. On voit la raison comme étant le dernier degré de l'intelligence, d'où l'expression imbécile ou débile. Pourquoi ? Parce que si Dieu peut, en son verbe, voir tout et distinctement, nous, nous ne pouvons voir les choses que d'une façon successive et d'une façon confuse. Et ce côté successif, et qui est l'ordre dont je vous ai parlé, qui était donc le passage du confus au distinct, et pour saint Thomas, le processus qui caractérise la raison. Et, dit saint Thomas, et Charles de Coninck, il y a dans la raison et l'intelligence dans son mouvement. Mais c'est bien de l'intelligence. Et donc, il y a dans l'activité rationnelle humaine un désir, une tendance à surmonter la dispersion de la rationalité. C'est-à-dire à surmonter le fait qu'il nous faut des mots, des modes de définir, des modes de procéder pour pouvoir dire les choses. On voudrait voir tout à la lumière d'un universel que saint Thomas dirait intensif, c'est-à-dire qui représenterait tout, un peu comme les anges, tout distinctement en un seul regard, et non pas d'une façon dispersée. Et dit saint Thomas et Charles de Coninck, il y a dans l'intelligence, et c'est ce qui est dit dans le texte, le premier texte que je vous ai cité, cette capacité de faire un retour sur son propre acte. Et il dit, saint Thomas, que l'intelligence peut le faire d'une façon, je veux dire, à l'infini. Vous voyez, c'est grâce à sa capacité de réfléchir sur elle-même, notre intelligence peut multiplier les relations intelligibles à l'infini. A et A, et ainsi de suite. Et en fait, dit Charles de Coninck, et là il s'appuie sur la somme théologique, donc question 28, qui renvoie à ce texte de saint Thomas, toutes les mathématiques modernes s'appuient sur cette capacité qu'a l'intelligence à revenir sur son propre acte. Une sorte de tautologie, mais qui n'est pas, qui peut sembler creuse d'une certaine façon, mais en fait, qui traduit une tendance, une impulsion, une dynamique particulière au cœur de la raison à devenir intellectus. Vous voyez, l'intelligence peut user de n'importe quel objet pour produire cette multiplicité. On passe de 1 à 2 en remplissant l'intermédiaire entre 1 et 2 par des nombres fractionnels, par des nombres irrationnels, pour faire comme si le passage de 1 à 2 pouvait être un passage continu. Et si le passage était continu, finalement, on aurait une vision de tous les nombres entiers à la lumière d'un seul concept.